Dominique Louis, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le président du directoire d'Assystem. On va parler avec vous de cette année 2011 et des perspectives pour l'exercice 2012. Alors l'année 2011, on avait en tête que, a priori, c'était une bonne année. C'est le cas compte tenu de cette progression d'activité, peut-être et surtout l'augmentation des marges sur l'exercice 2011.
Voilà, lorsqu'on regarde globalement, le chiffre d'affaires s'accroît de 20%, le résultat opérationnel de plus de 30% et le résultat net a quasi doublé. Donc la croissance a été efficace, si vous me passez cette expression, en termes de marge. Et ça correspond au fait que tous les secteurs dans tous les pays se sont extrêmement bien comportés, que le taux d'occupation des équipes a été à un niveau vraiment excellent, pour ne pas dire exceptionnel, et que 2012 démarre dans la continuité de 2011, c'est-à-dire un niveau d'activité soutenu essentiellement dans l'énergie, dans l'aéronautique, mais également dans l'automobile. Alors la seule nuance qu'on pourrait mettre, c'est que on a pu redouter, on peut peut-être encore redouter, une volatilité dans l'automobile, en particulier en France, mais qui n'est pas avérée. Hein. Aujourd'hui, l'activité est solide et se maintient bien. Mais c'est quand même dans l'énergie et dans l'aéronautique que nous avons une visibilité à plus long terme, même au-delà de l'exercice 2012 et 2013 et au-delà.
Ce qui s'est passé récemment dans l'automobile avec l'annonce d'alliance entre General Motors et Peugeot et PSA, hein, groupe PSA, ça peut déstabiliser un peu ce que vous faites ou.
J'emploierai pas le verbe déstabiliser, modifier probablement. La logique de ce genre d'opération, c'est de dégager des synergies, c'est-à-dire des économies en regroupant des achats. On peut imaginer que ce sera d'abord sur de l'achat de pièces, de composants, mais on peut aussi imaginer que l'ingénierie un jour sera balayée sous cet angle-là et que ça peut être une opportunité peut-être d'être fournisseur également d'Opel. Donc voilà, mais on peut penser que les choses vont bouger, oui.
Alors ça a été effectivement une conjoncture assez favorable en 2011, donc vous l'avez dit sur vos différentes activités. Récemment, vous avez d'ailleurs sur la partie nucléaire renforcé encore l'alliance que vous avez faite avec Atkins. Qu'est-ce que ça va vous amener pour le coup sur les prochains mois, ce renforcement?
Eh bien, concrètement, le grand programme nucléaire qui démarre dans le monde, c'est quand même la Grande-Bretagne. C'est à nos portes. Il y a deux EPR qui vont rentrer en construction quasiment cet été. En plus, l'opérateur, c'est la filiale britannique d'EDF. Donc, c'est une opportunité pour nous travailler en Grande-Bretagne dans le domaine du nucléaire. Et donc, pourquoi notre joint venture avec Atkins est particulièrement bien positionné? Parce que le cahier des charges, c'est on prend l'EPR de Flamanville, EPR français, sur lequel le système a travaillé, travaillera. On veut le construire en Grande-Bretagne, donc il y a un certain nombre d'adaptations à faire aux normes, à la régulation britannique. Et là, on a Atkins qui a ce savoir-faire-là. Donc la joint venture Assystem Atkins, tout naturellement, est parfaitement positionnée, à tel point qu'elle a été, j'allais dire, récompensée par une signature à l'Élysée lors du dernier sommet entre notre président et David Cameron. Et pour nous, c'est la garantie d'une activité en Grande-Bretagne avec une très bonne visibilité. Et puis surtout, c'est le fait que l'on est présent sur tous les projets d'EPR, et ça c'était une décision stratégique de notre côté, c'est de dire on se doit de participer sur tous les projets EPR pour être l'entreprise en dehors d'EDF d'Areva qui aura l'expertise la plus large en matière d'EPR et de construction d'EPR.
On en avait parlé ensemble il y a quelques mois de cela, sur, bien sûr, après ce qui s'était passé au Japon. Aujourd'hui, on est revenu à... est-ce que ça veut dire plus de sécurité? Est-ce que ça veut dire plus de travail aussi sur ces... Ou est-ce qu'on est revenu en même temps sur une activité normale? C'est-à-dire, est-ce que les projets... Vous parlez du Royaume-Uni, ça repart. Clairement, il y a des projets. Mais dans le monde, globalement, est-ce que les projets sont en attente de... plus d'informations, qu'est-ce qui...
Alors, je pense qu'il y a beaucoup de projets qui sont lancés, mais je dirais en phase amont d'études. Nous-mêmes, On a gagné un contrat à Abu Dhabi sur un sujet des marées, mais on est en passe d'en gagner un en Afrique du Sud, en Arabie Saoudite, donc deux pays qui réfléchissent à investir dans des réacteurs, mais qui se posent des questions en disant, après Fukushima, quelle est la bonne technologie, comment faut-il faire? Et donc prennent le temps d'étudier et nous nous positionnons sur ce genre d'activité. Et viendra derrière tous les. Alors après, on peut avoir une vision pessimiste de dire, ils peuvent renoncer après et dire finalement, on ne trouve pas de solution qui nous convienne et on n'investira pas. Ceci étant, les besoins en énergie, les mix énergétiques de ces pays en voie de développement, fait que de toute façon, il y aura du nucléaire. Alors, le
Mais
nucléaire
ça
sera.
sera un nucléaire différent dans le sens plus de sécurité, on va dire le côté
Clairement,
nucléaire
oui.
bas de gamme
Clairement, oui,
qui à
c'est
un moment
fini.
donné on pensait
Il
qu'il allait.
y avait une idée un peu de nucléaire low cost et puis une espèce d'Eldorado aussi, c'est-à-dire qu'on allait construire des centrales partout. Aujourd'hui, ça c'est fini et que le maître mot c'est la sûreté. Le sujet c'est est-ce qu'aujourd'hui les technologies proposées, par exemple l'EPR, suite à Fukushima, présentent un niveau de sûreté suffisant pour qu'on en généralise la construction? A priori, la réponse est oui, mais les clients s'interrogent de cette façon-là. Quelles sont les autres technologies qui amènent ce niveau de sûreté? Qu'est-ce qu'il faut modifier sur les installations existantes? Les pays qui décident de ne pas faire du nucléaire comme l'Allemagne, donc, vont un jour démanteler. On s'aperçoit qu'en Allemagne, les provisions, les chiffres annoncés pour le démantèlement sont plus importants encore que les chiffres pour construire de nouvelles centrales. Donc voilà, ça va rester un secteur particulier où il y aura des investissements de toute façon, que ce soit de capacitaire, mais surtout en amélioration de sûreté, très très important et surtout avec une grande visibilité, parce que dans le nucléaire, 5 ans ou 10 ans, c'est l'année dans beaucoup d'autres secteurs.
Alors, si on revient sur les perspectives 2012, on regarde la situation financière, on regarde les différents éléments et on regarde ce que vous dites. Vous dites aujourd'hui, vous souhaitez participer à cette consolidation de votre secteur. Ça veut dire qu'il peut y avoir des opportunités, effectivement, dans vos marchés, sur vos différents, dans vos activités.
Alors, on a dit qu'on était dans deux grands marchés, la R&D externalisée et l'ingénierie des infrastructures complexes comme le nucléaire. Donc, on regarde dans ces deux domaines-là. On dispose de moyens financiers importants. Notre position, c'est de dire, on souhaite faire qu'une ou deux opérations de grande taille structurante plutôt que faire, on pourrait faire toute une série d'acquisitions. Donc, à partir de là, on a un choix, mais qui est assez large, en matière de pays, de métiers, de secteurs. Être sûr de trouver la bonne cible. Vous savez, c'est quand on rentre dans un magasin, on se précipite sur quelque chose. Une heure après, dans le magasin d'à côté, on voit quelque chose de mieux. Donc, ce qui fait qu'on prend notre temps. Mais on est résolu effectivement à faire une opération, peut-être deux, qui seront structurantes pour le futur des systèmes, clairement.
Alors, certains ont vu dans la stabilisation du dividende justement l'idée que vous gardiez quelque part des munitions justement pour ne pas voilà, on n'est pas sur une progression du
Alors,
dividende malgré la progression des résultats.
lorsqu'on regarde le niveau de dividende qu'on distribue, égard nos moyens financiers de 300 millions d'euros, c'est à la marge, ça va dans le bon sens, mais c'est pas ça qui va changer fondamentalement notre possibilité d'acheter une. Non, c'est plutôt d'ailleurs, enfin c'est anecdotique, mais c'est une des contraintes du cahier des charges de l'Ornan, où effectivement l'augmentation du dividende trop importante modifierait les composantes de l'Ornan vis-à-vis des investisseurs en Ornan. Donc
Le
voilà.
mot de conclusion sur 2012, toujours. L'enjeu, c'est la question sur la marge, effectivement, avec, on voit ces hausses de prix, les hausses de prix difficiles à faire passer pour le coup, et les salaires qui augmentent de l'autre côté, ça va être des questions sur les marges
Alors,
pour vous.
nous, on est maniaque du free cash flow. Alors bien sûr, il faut un minimum de marge pour avoir un bon free cash flow, mais notre souci, c'est d'abord le maintien du free cash flow. D'autant plus que si effectivement, avant la fin de l'exercice, et je le souhaite fortement, on réalise une très grosse opération, on aura quand même de l'endettement et donc des remboursements. On a l'Ornan qui a un vrai chance en 2017. Donc notre objectif, c'est le free cash flow.
Eh bien, on suivra ça. Merci d'avoir fait le point avec
Merci à
nous,
vous.
Dominique Louis, président du directoire d'Assystème.